Bonsoir, bienvenue sur Mediapart. Ce soir, une émission avec la nouvelle secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet. Elle a 41 ans, c'est une cadre. Elle est la première femme à diriger le deuxième syndicat français, alors que la mobilisation, évidemment, contre les retraites se poursuit, malgré la promulgation de la loi. Sophie Binet, bienvenue. On a plein de questions à vous poser avec Dan Israël, qui est responsable du pôle social de Mediapart. Cette émission, elle est en accès libre, vous le savez, mais elle n'est possible que grâce à vos abonnements. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous à l'air libre. C'est parti. Sophie Binet, bonsoir. La loi qui augmente l'âge légal de départ à la retraite a été promulguée. Le Conseil constitutionnel a rejeté la proposition d'un référendum d'initiative populaire sur le sujet. La quatorzième manifestation est annoncée le 6 juin. Est-ce que ce sera la dernière ?
Il ne faut jamais dire la dernière, mais ce sera la prochaine en tout cas. Le 6 juin, c'est une date importante dans l'histoire de France. C'est le D-Day, le jour J, le jour du débarquement. Et bien, le 6 juin, on appelle à débarquer cette réforme des retraites qui est dangereuse pour le pays, dangereuse pour les salariés. Et pourquoi est-ce que c'est une journée importante ? Parce que deux jours après, le 8 juin, à l'Assemblée nationale, sera examinée une proposition de loi d'initiative parlementaire qui vise à abroger la réforme des retraites. Et donc, le 8 juin au soir, peut-être que la réforme des retraites sera abrogée grâce à cette proposition de loi. Nous appelons tous les parlementaires à la voter. C'est la première fois que l'Assemblée nationale pourra voter sur la question des retraites. Et ça permettrait enfin de tourner la page et de pouvoir passer au vrai sujet, salaire, la question environnementale, la question des conditions de travail, de l'égalité femmes-hommes, etc.
Cette proposition de loi, elle est proposée par le groupe Liotte, donc un groupe centriste qui n'est pas dans la majorité, qui propose en effet d'abroger cette réforme. Ce matin, justement, vous avez rencontré ce groupe dont le député le plus connu est Charles de Courson, qui a bataillé lui aussi contre la réforme. On vous a vu à ses côtés. Vu les positions parfois très conservatrices de Charles de Courson, c'est assez inattendu. On écoute.
Ça veut dire que le dernier mot est à l'Assemblée nationale, qui est les seuls représentants du peuple français. Dans une démocratie, c'est la force du peuple, démos, kratos. Voilà. Et donc c'est aux représentants du peuple, l'Assemblée nationale, de trancher de cette affaire. Et à personne d'autre.
Cet attelage inattendu, Charles de Courson, il défend là des positions démocratiques en réalité, mais on sait que sur plein d'aspects, il n'est pas du tout d'accord avec vous. Évidemment, c'est dû au contexte.
Deux choses. D'abord, la CGT, ça se sait peu, mais on interpelle l'ensemble des parlementaires, à l'exception du Rassemblement national. Donc, on a régulièrement des contacts avec tous les parlementaires, qu'ils soient de droite ou de gauche. Et sur d'autres sujets, moi, j'ai été amenée à travailler avec des parlementaires de droite sur des questions d'égalité femmes-hommes ou sur des questions énergétiques ou autres. C'est pas inédit. Et ensuite, en fait, ça montre la situation baroque dans laquelle on est aujourd'hui. Une situation...
Pourquoi baroque ?
Baroque parce que en fait on a une réforme violente qui est là par la volonté d'un seul homme contre l'avis de la quasi-totalité de la population, contre l'avis de la totalité des organisations syndicales et contre l'avis d'une majorité de parlementaires. Et aujourd'hui, si c'est ce groupe qui est l'auteur de cette proposition de loi, c'est parce que il y a à la fois une question sociale puisque cette réforme elle est violente, mais depuis l'utilisation du 49.3 par le gouvernement, c'est ajouté une question démocratique lourde.
Vous dites c'est une anomalie démocratique, la situation dans laquelle on est aujourd'hui.
Oui, tout à fait. C'est une anomalie qu'un président de la République puisse imposer une réforme de cette ampleur malgré un avis défavorable des députés, des syndicats et de la population. C'est pour ça que le fait d'organiser par exemple un référendum aurait pu constituer une sortie de crise importante en disant bon, on a un désaccord entre l'Élysée et tout le reste du pays, hein, parce que c'est quand même ça la situation.
C'est comme ça que vous résumeriez la situation.
Ah bah oui, ça c'est sûr. Donc on va demander démocratiquement au pays de trancher et de voter. Malheureusement, ça a été refusé par le Conseil constitutionnel. Bon, cela dit, rien n'empêche le gouvernement de dire on va organiser un référendum et on s'en remet au peuple. C'est toujours possible et je pense que ça serait une solution intelligente.
Ça ne serait pas une option du tout.
Ça serait une solution. Malheureusement, je crains que ça, pour l'instant, à ce stade, ce ne soit pas une option pour lui, puisque ce qu'on constate, c'est quand même une radicalisation du pouvoir. C'est extrêmement inquiétant ce qui se passe, puisque jamais on n'aura vu un tel verrouillage démocratique avec le 49.3, on connaissait, on a vu le 47.1, toute une série de cumul d'articles de la Constitution qui permettent et d'empêcher le débat parlementaire et d'empêcher le débat démocratique, des interdictions de manifester, des interdictions même de distribuer des tracts. Bon, ça en devient très inquiétant du point de vue des libertés publiques.
Est-ce que vous pensez que cette proposition transpartisane, enfin, en tout cas c'est ça qu'essaye d'organiser le groupe Liotte, un vote transpartisan contre la réforme des retraites à l'Assemblée nationale le 8 juin, est-ce que vous pensez que ça peut aller au bout? Pour l'instant, même la majorité au Sénat qui a voté la réforme des retraites de droite dit, même si l'Assemblée vote, nous derrière, ça passera pas au Sénat.
Nous, on fait les choses par étapes. Et là, ce qui est plausible, vraisemblable, des dires même du gouvernement, c'est que cette proposition de loi, elle soit adoptée par l'Assemblée nationale. D'accord. Et déjà, ça serait un sacré coup de tonnerre.
Vous pensez qu'elle sera adoptée ?
Alors, je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas députée, donc je ne sais pas jauger les rapports de force. Ce que je sais, c'est qu'il y a une majorité de députés qui ne voulaient pas voter cette réforme et que la motion de censure n'a pas été adoptée à 7 voix près, un score historiquement haut, c'était inédit, sachant que les règles de majorité pour les motions de censure ne sont pas les mêmes règles que sur une proposition de loi. Parce que pour que la motion de censure passe, c'est d'ailleurs pour ça que ça ne passe jamais, les motions de censure, c'est qu'il fallait la majorité de tous les inscrits. Quand on était absent, c'est comme si on votait contre la motion de censure. Alors que là, il suffit de la majorité simple des présents pour que la proposition de loi passe. Et donc, il y a de sérieuses chances que cette proposition de loi soit votée. Mais attention, ça n'est pas acquis. C'est pour ça qu'il faut se mobiliser en grand nombre le 6 juin par la grève et par les manifestations. Et c'est aussi pour ça qu'on appelle l'ensemble des salariés à interpeller les députés. Il y a un courrier type qui est à disposition. On va mettre à disposition une plateforme numérique d'interpellation des parlementaires. Il faut multiplier les initiatives en direction des parlementaires pour les appeler à prendre leurs responsabilités le 8 juin prochain.
Vous dites que l'Élysée s'inquiète ?
Écoutez, moi, je ne suis pas dans la tête d'Emmanuel Macron.
Mais, vous l'avez dit,
mais oui, on l'entend. Moi, j'ai entendu un ministre, le ministre du Travail en l'occurrence, dire sur un plateau télé qu'il y avait effectivement un risque, donc une possibilité, ce serait mon terme pour moi, que cette proposition de loi soit adoptée. Donc c'est tout à fait possible que ça soit voté à l'Assemblée nationale. Ensuite, après, il y a un parcours législatif, donc ça ne serait pas la fin de l'histoire. Mais ce qui est sûr, c'est que si la proposition de loi est adoptée par l'Assemblée nationale, il faudra immédiatement suspendre l'application de la réforme. Ce n'est pas possible d'appliquer une réforme au 1er septembre s'il y a en navette parlementaire une loi qui abroge cette réforme. Ça serait très grave. Donc la première des choses à faire le 8 juin au soir, si la loi est adoptée, c'est de suspendre immédiatement l'application de la réforme pour laisser à cette proposition de loi son temps de navette parlementaire.
Ben. Ouais, le 6 juin et le 8 juin, c'est dans presque un mois. Mm-hmm. Comment on fait pour mobiliser pendant toute cette période-là? Il y a, donc, vous avez dit, des outils pour interpeller les députés. Est-ce que vous arrivez sur le terrain à maintenir une tension, une mobilisation, une motivation?
Oui, en fait, ça fait là 4 mois que la mobilisation dure. C'est une mobilisation qui est en train de battre tous les records. On a battu les records en nombre de manifestants, en nombre de grévistes, c'était aussi très élevé dans le privé. Là, je pense qu'on va battre les records de durée. Et donc, effectivement, entre aujourd'hui et le 6 juin, il y a un mois, il y a plein d'initiatives là qui sont organisées sur le terrain qui montrent que aujourd'hui, par exemple, ni le président de la République ni son gouvernement ne peuvent aller dans aucun endroit de France sans être poursuivi par la casserole de la réforme des retraites.
Ouais, tout à fait. Vous parlez des casserolades, des rassemblements. C'était pas quelque chose qui au départ était lancé par les syndicats, mais vous êtes. On voit que les citoyens sur le terrain ont envie de parler à leurs représentants, aux ministres, aux présidents. Et ça se passe assez mal pour eux, en effet.
Oui, en fait, ça confirme ce qu'on dit depuis le début, c'est-à-dire que la contestation contre cette réforme, elle est tellement large qu'elle dépasse même les organisations syndicales, alors que les organisations syndicales ont cumulé, on a quand même beaucoup de syndiqués. Hein. Ouais. Mais là, c'est tellement large que ça va au-delà de nous. Et effectivement, les casseroles, ça n'a pas été initié par la CGT. Il y a beaucoup d'endroits dans lesquels la CGT est très présente, dans ses initiatives, ou dans lesquels c'est nous qui les initions. Pas partout, et ça montre que quoi que fasse le gouvernement, s'il ne retire pas sa réforme, il restera une défiance profonde dans le pays.
On voit que là, ces formes de mobilisation sont assez originales et assez nouvelles, mais on se pose quand même la question, on va dire de plus en plus dans les milieux militants, de la stratégie de l'intersyndicale. Évidemment, on va arriver à la 14e manifestation, c'est autant qu'en 2010. Bon, mais la loi a été promulguée, le pouvoir ne bouge pas. Finalement, manifestement, la majorité, les ministres, l'exécutif disent « oui, il y a beaucoup de monde dans les manifestations, mais bon, voilà, ça n'augmente pas tant que ça, donc ça va ». Est-ce qu'il y a un peu une impasse stratégique ?
Non, je ne pense pas que c'est une impasse stratégique. Je pense qu'on a deux problèmes ou trois. Le premier, c'est cette radicalisation du pouvoir et cette impasse constitutionnelle et démocratique. Il y a quand même aujourd'hui un problème institutionnel en France. Et le fait que même le référendum d'initiative partagée ait été refusé, ça montre qu'il y a un problème. Donc c'est plus possible de continuer avec cette constitution-là qui verrouille les débats et qui empêche une sortie de crise dans un contexte comme celui-là. Et c'est vrai que quand on échange avec nos homologues étrangers, notamment au niveau européen, ils ne comprennent pas du tout ce qui se passe en France. Et ce qu'ils disent, c'est que dans leur pays, ça n'existerait pas. Parce qu'il n'y a pas un président de la République qui pourrait passer une réforme contre l'avis des députés, contre l'avis des syndicats, contre l'avis de la population. Donc ça, c'est quand même le premier point qui ne dépend pas de nous. Ensuite, pour nous, organisation syndicale, le point clé pour organiser un rapport de force, c'est les grèves. Et donc, c'est d'être toujours plus nombreux et nombreuses en grève pour avoir un impact économique, parce qu'on sait que la grève, elle coûte, et elle coûte très cher. Et donc là, il y a eu des grèves très suivies sur les journées d'action. Il y a eu des grèves reconductibles dans un certain nombre de secteurs, notamment le secteur de l'énergie, qui a fait quasiment 40 jours de grève, avec plus d'un milliard d'impact économique juste sur le secteur. Le secteur des déchets, le secteur aussi de l'industrie du verre, etc. Le problème, c'est la difficulté à étendre ces grèves qui sont liées, de notre point de vue, aux transformations du salariat, au fait qu'il y a toujours plus de précaires dans un certain nombre de secteurs, notamment sur les emplois ouvriers, dans l'industrie. Sur les emplois ouvriers, c'est 20 à 40% d'intérimaires sur les chaînes, donc forcément, on n'a pas la même capacité à organiser les grèves. Au fait que, de l'autre côté, il y a aussi de plus en plus de cadres et de professions intermédiaires dans les grandes entreprises, ça, c'est des défis pour le syndicalisme. Et puis aussi, au fait que le patronat, depuis mai 68, il s'est organisé. Et donc, il s'est organisé pour minimiser l'impact des grèves et pour rendre plus compliqué pour nous le fait de faire des grèves. Donc nous, c'est des leçons à tirer pour réorganiser notre stratégie. On sait que le syndicalisme, c'est une guerre de mouvement. Donc nous, on est en mouvement permanent. Et évidemment que quand cette mobilisation sera finie, on l'analysera en profondeur pour en tirer des leçons en termes d'organisation du rapport de force.
C'est vrai qu'on s'est demandé, notamment à partir du 7 mars, où il y avait un appel à mettre la France à l'arrêt, donc nouveauté pour la CGT, mais pour la CFDT quand même, de lancer un appel à ce qu'il y ait une grève générale, même sur une journée. Bon, ça n'a pas pris autant qu'espéré. Pourquoi, dans l'intersyndicale, il n'y a pas eu une tentative d'organiser ça plus, notamment en s'appuyant sur les caisses de grève, notamment la CFDT qui a une caisse de grève de 140 millions d'euros, donc il y a de quoi financer des grévistes. Bon, la CGT a fait des appels aux dons qui ont très bien marché. Il n'y a pas eu une tentative d'organiser, par exemple, des grèves tournantes, entreprise par entreprise, enfin de changer un peu les modes d'action, justement.
En fait, tout se passe pas au niveau national interpro. C'est ça qui est important de comprendre, c'est que on a l'habitude de dire une grève, ça se décrète pas, ça se construit. Moi, je peux appeler là à faire grève à partir de maintenant et demain. Je suis pas sûre que tout le monde se mette en grève à partir de maintenant et demain. La grève, ça se construit par en bas, en assemblée générale, avec les salariés, en faisant des réunions avec ses collègues, etc. Et donc, je ne suis pas sûre que l'intersyndicale ait pu faire grand chose de plus qui aurait eu un impact. Par contre, c'est à nous, dans la façon dont... Parce qu'il y a eu cet appel à mettre la France à l'arrêt le 7 mars. Moi, ce que je ne partage pas, c'est le fait que c'était un échec. C'est pas vrai. Le 7 mars, il y avait beaucoup de grèves, notamment dans le privé, et on en parle trop peu. En fait, le problème aussi, c'est qu'on invisibilise complètement les grèves.
À un moment donné, ça n'a pas pris autant qu'espéré.
Je sais pas, ça dépend combien on espérait. Enfin, nous, le 7 mars, on pensait pas qu'on serait comme en juin 68 avec plus rien qui tourne en France. On connaît à peu près nos capacités d'action. Donc ça c'est sûr. Après, la question, effectivement, c'est après le 7 mars, la capacité, il y a des secteurs qui sont partis en grève reconductible, et le problème, c'est qu'il y a trop peu de secteurs aujourd'hui qui peuvent partir en grève reconductible, et donc la première leçon à en tirer, c'est qu'il faut se syndiquer. Pourquoi est-ce que ces secteurs ont pu partir en grève reconductible, que ça soit dans les transports, dans l'énergie, par exemple? Parce que c'est les secteurs où on a les taux de syndicalisation les plus importants. Et donc, en matière de grève, bon, les caisses de grève, c'est une chose, mais ce qui permet de tenir, d'abord, c'est d'être syndiqué, d'avoir une organisation collective, parce que c'est ce qui permet d'être protégé contre les représailles, contre la discrimination, contre les pressions patronales. Donc, première leçon, syndiquez-vous, syndiquons-nous largement.
Gros défi pour les syndicats.
Parce que, effectivement, si on sort de cette mobilisation avec les effectifs des syndicats qui augmentent de 10, 10, 20, 30, 40%. En termes de rapport de force, au moyen long terme, on aura tellement changé la donne. Parce que ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que là, on est sur une mobilisation nationale sur un projet gouvernemental. C'est très particulier. Au quotidien, le syndicalisme, c'est pas ça. Au quotidien, le syndicalisme, c'est retrouver les marges de manœuvre sur notre travail, nos conditions de travail, nos salaires, etc., auprès de l'employeur.
Justement.
C'est ça, pour changer les choses, il faut se syndiquer et il y a un effet direct.
Sophie Binet, avant le 8 juin, il y a le 6 juin, donc cette mobilisation dont vous avez parlé, et avant, il y a même le 16 et 17 mai. Elisabeth Moore a invité tous les syndicats à Matignon pour parler. Il y a quelques semaines, quand Emmanuel Macron vous avait invité à l'Élysée, vous aviez répondu « lol », en développant un peu quand même. Le 16 et 17 mai, si Elisabeth Moore, en s'asseyant, vous dit « je ne retire pas ma réforme », ce qui est quand même assez probable, est-ce que vous partez de la Réunion ?
D'abord, c'est pas ce qu'on avait fait quand on était allé la voir en avril, où on était resté quand même une heure dans la salle. Et pourquoi est-ce qu'on avait fait le choix de rester ? Parce qu'on avait voulu lui exposer en profondeur et sans lire de papier, avoir un vrai échange avec elle sur pourquoi cette réforme était dangereuse, qu'il fallait la retirer et qu'on ne repasserait pas à la normale. Donc moi, je pense que le 17 mai, c'est ce que je vais faire, c'est-à-dire rester jusqu'au bout du rendez-vous pour avoir un échange jusqu'au bout sur pourquoi est-ce que, si cette réforme n'est pas retirée, les 4 ans de fin de quinquennat vont être impossibles parce que le gouvernement n'a plus ni majorité politique ni majorité sociale et ne peut plus rien faire dans le pays avec une défiance extrêmement profonde. Et je vais aussi, dans cet échange, comme je l'avais fait en avril lorsque nous avions tous rencontré Elisabeth Borne, lui dire que le plus grave, c'est qu'avec cette politique de passage en force, avec cette radicalisation du pouvoir, ça a pour effet mécanique de faire monter le Rassemblement national et l'extrême droite, un danger mortel pour notre démocratie. Et ça, quand on est syndicaliste et à la CGT, c'est peut-être ce qui nous rend le plus en colère, en fait, c'est cette situation-là. Et puis après, je ne vais pas en rester là, c'est-à-dire qu'ensuite, nous allons, nous, amener, porter les vrais sujets de préoccupation des salariés, à savoir la question des salaires, parce que c'est important de rappeler...
Pourquoi c'est difficile de mobiliser sur ce sujet-là ? On a l'impression que c'est la réforme des retraites qui met les gens dans la rue.
Détrompez-vous. Alors ça, c'est rigolo parce que...
Il y a des mouvements locaux, évidemment,
oui,
il y en a plein.
Bien sûr.
Mais il n'y a pas de mouvement massif, c'est vrai, sur la question des salaires.
Ben oui, mais parce que ça ne fonctionne pas du tout pareil. Parce que les salaires, le premier interlocuteur, c'est le patron. Et donc, il y a des mobilisations dans les entreprises, sur les lieux de travail, directement en lien avec les négociations salariales. Mais un mouvement national interprofessionnel sur les salaires, c'est beaucoup plus rare et à peu près jamais vu. C'est-à-dire, il y a plein d'autres ingrédients, ça en fait partie. Mais ça, pour construire une mobilisation nationale interpro sur les salaires, c'est pas la même mécanique.
Donc comment vous faites pour mettre cette question à l'agenda là, maintenant, du coup
Il suffit de regarder ce qui se passe dans le pays, dans les boîtes, pour voir que les salaires baissent en euros constants, c'est très grave. Il y a un tassement sans précédent des qualifications et des salaires, avec de plus en plus de salariés qui sont payés au SMIC ou au niveau du SMIC et qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois et à remplir leur frigo. Donc il y a un grave problème et nous avons deux propositions très simples. La première, c'est qu'il faut indexer les salaires sur les prix, indexer les salaires sur l'augmentation du SMIC, que quand le SMIC augmente, tous les salaires augmentent. Ça s'appelle l'échelle mobile des salaires. Ça existait en France jusqu'en 1983. Ça existe encore en Belgique et au Luxembourg. Ça marche très bien. Et la deuxième proposition, c'est la conditionnalité des aides publiques. On arrose, alors ça on oublie de le rappeler, à part peut-être sur Mediapart, l'État arrose très généreusement les entreprises, et notamment les plus grandes d'entre elles, de milliards d'euros d'aides publiques. C'est chaque année quasiment 200 milliards d'euros qui sont donnés sans contrepartie ni contrôle aux entreprises, et notamment à celles du CAC 40. Eh bien, nous disons qu'il faut conditionner ces aides publiques à des objectifs sociaux et environnementaux, notamment en matière de salaire, d'emploi, d'égalité salariale, d'environnement, pour avoir un levier sur les négociations salariales.
Est-ce que ça peut être un axe fort de l'intersyndicale au-delà de la question des retraites ? Parce que vous l'avez dit, il y a plusieurs choses. Bon, vous avez les 8 syndicats de salariés sont ensemble depuis presque 5 mois, ça marche très bien. Mais sur les retraites, pour l'instant, ça ne bouge pas. Est-ce qu'il faut aller au-delà ? Et la question, c'est est-ce qu'on peut aller au-delà sur les salaires, en sachant que l'autre gros partenaire de cette coalition de syndicats, c'est la CFDT, qui, en effet, ne manifeste pas traditionnellement dans la rue pour les salaires de façon nationale. Ils mènent des combats dans les entreprises ou des négociations dans les entreprises. Est-ce qu'il y a moyen de construire quelque chose dans l'intersyndicale sur cette question ?
Eh bien, l'intersyndicale est justement en train de travailler sur des propositions communes qu'on rendra publiques normalement dans le courant de la semaine prochaine. Et je pense qu'il y en aura sur les salaires, oui.
Okay.
Une petite question sur le climat politique. Vous en avez parlé au début, mais ces dernières semaines, on a vu des violences policières importantes, des gardes à vue arbitraires, des arrêtés en anti-manifestations illégaux. L'ONU, le Conseil de l'Europe, la Défenseur des droits, la Contrôleur général des prisons et bien d'autres ont dit leurs inquiétudes sur les libertés publiques en France en lien avec ce mouvement sur les retraites. Est-ce que vous partagez ces inquiétudes ?
Oui. C'est extrêmement inquiétant, c'est pour ça qu'on parle de radicalisation du pouvoir, avec une fuite en avant sécuritaire, une fuite en avant liberticide, si c'était dans un film, on en rigolerait, les arrêtés anti-casserole, voilà, c'est ridicule, mais c'est quand même un grave problème pour les libertés publiques qu'on ose fouiller et interdire aux citoyennes et aux citoyens de sortir avec des casseroles, des dispositifs sonores portatifs, qu'on nous interdise de distribuer des tracts à l'entrée du Stade de France, etc. etc.
Il y a même des syndicalistes qui sont poursuivis, notamment pour des blocages de route ou pour des graffitis sur les
trottoirs. Tout à fait, et nous avons de plus en plus de poursuites de syndicalistes à deux niveaux. D'abord par des patrons qui convoquent pour entretien préalable à licenciement des grévistes. C'est interdit, je le rappelle, puisque le droit de grève est un droit constitutionnel. Et ensuite, des poursuites au pénal avec des dépôts de plainte, des gardes à vue, etc. pour la moindre initiative, un graffiti ou autre, ou une manifestation non déclarée. Il y a un membre de la direction de la CGT qui s'appelle Laurent Indruziak, qui est victime d'un véritable acharnement judiciaire. Il a déjà eu une vingtaine de convocations judiciaires. C'est quelqu'un qui est très calme, c'est inimaginable quand on le voit et quand on le connaît d'imaginer qu'il puisse avoir 20 convocations judiciaires. Et pourquoi ? Parce que à chaque fois, c'est soi-disant des manifestations qui ne sont pas déclarées, pour lesquelles on poursuit et on condamne la CGT.
C'est quoi ? C'est une criminalisation des activistes, des militants, du mouvement social ? Quel mot vous utiliseriez pour vous disiez le pouvoir se radicalise ?
Oui, il y a une criminalisation des activistes et des militants, et on le voit en matière sociale et en matière environnementale. Et en fait, ça va de pair avec la question démocratique, c'est-à-dire que comme il y a une lucidité toujours plus importante des populations sur l'impasse du capitalisme et la violence du capitalisme en matière sociale et en matière environnementale, bah de plus en plus, la seule arme, c'est le verrouillage démocratique et le passage en force. Et c'est pour ça que les choses sont de plus en plus violentes. Donc, oui, c'est violent, c'est dur, mais de l'autre côté, moi, je le prends comme un signe positif, parce que ça montre qu'ils sont de plus en plus minoritaires et qu'ils sont obligés de verrouiller de plus en plus, et ça tient jamais très longtemps.
On parle de l'environnement, justement, on pense, nous, au groupement d'associations Les Soulèvements de la Terre, qui ont notamment organisé les manifestations à Sainte-Soline, contre les méga-bassines. Le gouvernement envisage de les dissoudre, en tout cas annoncer qu'ils souhaitaient le faire, ils ne l'ont pas encore fait. Ils organisent encore, bien sûr, les mouvements contre la 69, l'autoroute Toulouse-Castres et encore d'autres actions cet été. Bon, mais il n'y a pas que le gouvernement. Le secrétaire national du Parti communiste français, Fabien Roussel, a dit qu'il déplorait et qu'il condamnait les violences qui ont eu lieu à Sainte-Soline. Est-ce que vous comprenez ces positions, les violences des manifestants contre les forces de l'ordre ?
Déjà, c'est pas pareil de dire qu'on va dissoudre une organisation écologique et de déplorer des violences. Ça,
c'est vrai.
Et ensuite, malheureusement, dans un certain nombre de mouvements sociaux, il y a aussi, le 1er mai, par exemple, il y a eu des violences qui n'étaient pas le fait des organisations syndicales. Il y a eu des violences policières, mais il n'y a pas eu que des violences policières. Il y a eu aussi des black blocs. Enfin, nous, il y a eu trois militants de la CGT confinés à l'hôpital, par exemple. Alors, ils n'étaient pas dans les défilés syndicaux, ils faisaient partie du dispositif d'encadrement de la manif. Donc, je rassure tout le monde, il n'y a pas de danger à défiler dans les manifestations syndicales, on les sécurise. Mais donc, ils faisaient justement partie de ceux qui sécurisaient les manifs et qui ont eu des problèmes. Donc ça, effectivement, ça, c'est pas normal. Et moi, je le condamne clairement. C'est un problème parce qu'en fait, ça fait partie de la stratégie de pourrissement du pouvoir. On sait que aujourd'hui, dans sa stratégie de passage en force, Emmanuel Macron, il se repose sur deux choses. La première chose, c'est le Rassemblement national. Plus le Rassemblement national est élevé, plus ça prive toute possibilité d'alternative politique progressiste, et donc ça lui permet de rester tranquille au pouvoir, sachant qu'il ne va pas être menacé par une alternative avec une tripartition de la vie politique. D'un côté, le Rassemblement national, de l'autre côté, la NUPES, les progressistes. Et puis sa deuxième stratégie, c'est le pourrissement et d'espérer qu'il y ait de la violence pour pouvoir décrédibiliser les manifestantes et manifestants et ceux qui protestent contre sa politique. Donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas tomber dans ce piège-là.
Sur l'extrême droite, pendant qu'on parle justement, Mediapart organise une soirée publique à Paris ce soir qui s'intitule « Vous n'aurez pas notre peau, face aux haines ordinaires, unissons-nous ». Soirée contre le racisme, l'antisémitisme, la LGBT-phobie et contre l'extrême droite, alors que l'extrême droite justement a manifesté, l'extrême droite néofasciste, a défilé samedi à Paris en cagoule et masque noir, croix celtique bien visible avec des slogans nationalistes révolutionnaires. Dans la foule, les deux anciens trésoriers du micro-parti de Marine Le Pen, Axel Lousteau et Olivier Duguay, Axel Lousteau qu'on voit là à gauche, qui a intimidé notre photographe, Yann Castagné, qui a réalisé ces images. D'abord, qu'est-ce que ça vous inspire, ces images en plein Paris là ?
C'est extrêmement choquant. Et c'est justement très choquant que d'un côté, ce même gouvernement menace de dissoudre des associations écologiques, écologistes qui ont des modes d'action pacifistes, puisque, par exemple, les soulèvements de la terre n'ont jamais appelé à l'action violente, et de l'autre côté, autorise des manifestations cagoulées en plein Paris, en plein jour, de néo-fascistes.
Alors, Gérald Darmanin, il a dit maintenant, je dis au préfet de ne plus autoriser ces manifestations.
Oui, mais donc, pourquoi il les a autorisées la semaine dernière, alors qu'il interdit certaines de nos manifestations. Enfin, c'est scandaleux, ce deux poids, deux mesures, et ça montre encore une fois que le gouvernement ne lutte pas du tout contre l'extrême droite. Au contraire, il lui sert de marchepied, comme ils l'ont fait à l'Assemblée nationale en donnant un maximum de postes au Rassemblement national, en renvoyant dos à dos extrême droite, extrême gauche. C'est extrêmement grave. Nous, la CGT et les organisations syndicales, on a une position très claire. Il n'y a pas d'équivalence. On ne peut pas mettre dos à dos le Rassemblement national avec les autres forces politiques républicaines. Et c'est d'ailleurs pour ça que, à la veille du second tour, on avait dénoncé le danger de l'extrême droite et du Rassemblement national. Emmanuel Macron, il a été élu pour faire barrage au Rassemblement national, pas pour faire cette réforme des retraites et pour faire cette politique liberticide. C'est grave.
Quand on vous dit que l'extrême droite profite, on le dit, on l'entend partout, et vous l'avez un peu suggéré tout à l'heure, profite de ce pourrissement que est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? C'est quoi les alternatives ?
Bah, l'alternative, c'est que nous, on soit toujours plus forts, que nous, évidemment, c'est un... c'est un point clé, nous, à prendre en compte. Donc, dans un maximum de nos interventions, de nos formations, de nos tracts, etc., on décrypte l'imposture sociale de l'extrême droite et du Rassemblement national qui prétend défendre le monde du travail, mais qui, en fait, fait tout l'inverse, parce qu'il met en opposition les travailleuses et les travailleurs, et que, en plus, par exemple, en matière de retraite, quand on regarde les positions qui sont prises par le Rassemblement national... Ils votent contre l'augmentation des salaires, ils votent la multiplication des exonérations de cotisations sociales qui mettent en danger notre sécurité sociale. Donc, il n'y a pas pire ennemi pour le monde du travail que l'extrême droite. Mais ça, c'est important d'avoir ce travail d'éducation populaire sur ce point, parce que c'est ça qui est grave dans ce que fait Macron, c'est que quand on refuse de donner raison aux organisations syndicales et de nous entendre, forcément, on nous fragilise aussi. Or, nous constituons aujourd'hui un rempart démocratique et contre l'extrême droite. Donc, c'est grave. Et ça veut dire, pour un certain nombre, on a discuté des modes d'action tout à l'heure, on sera toujours sur des modes d'action pacifiques, en refusant toute action violente sur les personnes. Mais quand ces modes d'action pacifiques, on a un pouvoir qui s'assoit dessus, y a des gens qui en tirent des leçons en disant « très bien, on va passer à autre chose ». Et malheureusement, en faisant ça, ils leur donnent raison, c'est ça qui est grave.
Une petite question sur, il nous reste quelques minutes, sur la façon dont vous êtes devenue la secrétaire générale de la CGT fin mars. Un congrès avec beaucoup de divisions, Philippe Martinez, ancien secrétaire général, qui voulait une candidate, qui finalement n'a pas été retenue, une coalition d'autres personnes qui voulaient faire élire une autre candidate. Finalement, vous sortez d'une longue nuit et de longues heures de discussion. D'abord, est-ce que vous êtes un peu la François Hollande de la CGT, la candidate de la synthèse ?
on ne l'avait jamais faite, celle-là. Non.
Candidate d'une synthèse, de fait.
D'une synthèse. Alors, à la CGT, on ne parle pas vraiment de synthèse. Enfin, si, on parle de synthèse au sens de Marx, parce qu'à la CGT, on est marxiste. Et dans
vous
le
êtes
marxisme...
passé par le PS, alors vous pouvez comprendre le mot de synthèse aussi.
C'est surtout que moi, j'ai toujours été marxiste, en fait, parce que ça a marqué mon parcours, l'enjeu du conflit d'intérêts et de la lutte des classes. Et donc, le conflit d'intérêts, thèse, antithèse, synthèse. Donc, oui, effectivement, c'est comment, à partir des contradictions, les choses avancent à partir des contradictions. Donc, moi, je suis plutôt là, mon mandat, c'est le rassemblement de la CGT et de l'organisation, et donc je m'y applique.
Après cette très longue nuit, vous avez été élu à la tête de la CGT, on a remarqué un morceau de votre discours, vous avez une phrase qui, en tout cas nous a marqué, on écoute.
Notre congrès, il était inédit aussi, c'était peut-être pas complètement prévu, parce qu'il s'est tenu sur une terre volcanique, alors heureusement, on a empêché l'éruption. Mais bon, il ne faut pas qu'on se mente. Notre congrès, il a été très difficile. Il a été violent, parfois. Je pense que c'est important de se dire, de se redire que cette violence, elle n'est pas normale, elle n'a pas sa place dans les rapports militants et qu'il faut qu'on travaille pour la faire disparaître.
La CGT, c'est un syndicat marqué par l'histoire ouvrière, la lutte, aussi le rapport de force, et donc parfois aussi incarné dans quelque chose d'un peu masculin aussi, historiquement. Vous avez été d'ailleurs chargé à la CGT de l'égalité homme-femme. Ce discours-là, c'est pour dire quoi ? Est-ce qu'il y a, c'est, pour dire qu'il y a trop de violence parfois dans nos organisations et c'est pas bon, y compris dans l'espace politique, dans l'espace militant ?
C'était particulier au congrès, hein, ouais, parce qu'on a eu un congrès très particulier avec un certain nombre de problématiques très particulières. Donc c'était pas un discours général sur la CGT, qui est une organisation non violente et très accueillante pour l'ensemble des syndiqués. Après, dans ce que vous dites, il y a un enjeu. Moi, je suis féministe. D'ailleurs, je suis devenue féministe en rentrant à la CGT. Ça, c'est on l'imagine pas forcément, pas parce que la CGT était machiste, mais parce que j'ai rencontré justement des syndicalistes féministes qui m'ont formée à leur féminisme lutte des classes, qui est le mien aujourd'hui. Et donc, effectivement, comme féministe, je pense important de déviriliser l'image des luttes. Les femmes, elles ont toujours été dans plein de luttes, en tête de plein de luttes, et ces luttes ont souvent été aussi violentes, voire plus violentes que celles des hommes. Si on regarde les suffragettes, donc on les a affublées d'un surnom complètement ridicule, mais par contre, en termes de violence, les mobilisations de pêcheurs, d'agriculteurs, de dockers aujourd'hui sont pas au niveau de celles des suffragettes il y a 100 ans, qui mettaient le feu aux églises, faisaient des grèves de la faim, cassaient toutes les vitrines, etc. Ça, on l'a complètement invisibilisé dans l'histoire sociale. On a invisibilisé toutes les grandes luttes ouvrières qui ont été menées beaucoup par la CGT d'ailleurs, et qui ont contribué, lutte ouvrière menée par des femmes, et qui ont contribué non seulement à faire progresser l'égalité au travail, mais aussi à gagner l'émancipation dans la vie, parce que quand on permet à des femmes de se syndiquer, de lutter, de s'organiser, de faire grève, non seulement c'est très important du point de vue de l'égalité professionnelle pour améliorer leurs conditions de travail, leur salaire, mais c'est aussi leur permettre de s'émanciper dans la vie tout entière, gagner une place dans la société, puis aussi gagner une place dans leur couple. Ce qu'on observe dans les luttes, c'est que en général, on n'en sort pas pareil, ni au travail face à son patron, ni non plus face à son mari à la maison.
Oui, sur cette question du féminisme dans la CGT, bon, on en a parlé souvent et plusieurs fois, il y a la question de la façon dont le syndicat gère les violences sexistes et sexuelles. En mars, ça y est, la CGT s'est dotée d'un texte avec des recommandations assez claires sur qu'est-ce qu'on doit faire quand un camarade est accusé, comment est-ce qu'on recueille la parole des victimes, comment est-ce qu'on laisse de la place aux mis en cause. Alors, c'est des recommandations, mais en fait, chaque fédération, chaque union départementale est encore libre d'appliquer ce qu'elle veut. Si on ne veut pas écarter un militant qui est accusé de violence sexiste, voire plus, c'est possible. Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre pour la direction confédérale que vous représentez aujourd'hui pour imposer des choix, pour écarter des gens ?
Oui, parce que c'est un cadre commun qui a été adopté par toutes les organisations de la CGT, donc par les fédérations et les unions départementales, et donc auxquelles, normalement, nous devons tous nous tenir. Donc il est tout neuf, ce cadre commun, et il n'a pas encore eu à servir autrement que pour la direction confédérale. Donc normalement, là, ça va nous permettre... En fait, en matière de violences sexistes et sexuelles, on avance par étapes. On avait commencé bien avant MeToo, d'abord parce que moi, justement, quand je suis arrivée à la CGT et quand j'étais accueillie par ces militantes, ces syndicalistes féministes, tout de suite, j'ai été étonnée par la grande liberté de parole qu'il y avait sur la question des violences sexistes et sexuelles. Et c'était il y a plus de 10 ans. Enfin, il y a 15 ans. Ouais. Déjà, ça existait à l'époque. Et puis ensuite, on a organisé un cadre de prise en compte de la parole des victimes, donc avec une cellule de veille pour écouter.
Donc Mediapart,
et maintenant, voilà. Et maintenant, nous sommes à l'étape suivante, à savoir qu'est-ce qu'on fait une fois que des victimes nous disent qu'elles sont victimes de violences sexistes et sexuelles, en termes de prévention, formation, sanction des agresseurs. Et on a un cadre commun qui n'est pas parfait. Hein. Enfin, moi, je l'ai assumé clairement. C'était moi qui l'avais présenté avec Raphaël Mani, la pilote de la cellule de veille, et on l'avait dit clairement en disant c'est pas parfait, tout n'est pas réglé dans ce cadre commun, mais ça pose un certain nombre de principes qui va nous permettre de franchir une nouvelle étape, et puis on va faire des bilans réguliers ensemble, et s'il y a des choses qui vont pas, on va les corriger.
Parce qu'il y a comme un cas précis qui a agité beaucoup, notamment au moment des discussions sur ce texte, au moment juste avant le congrès, c'est le cas de Benjamin Hamard, donc, qui est un militant du Val-de-Marne, très médiatique, qui a été définitivement exclu de la direction confédérale parce qu'il est accusé de violences sexuelles graves. Néanmoins, bon, son union départementale du Val-de-Marne le maintient. Il y a vraiment une grande, grande tension quoi, sur ces questions. Est-ce que ça va, vous pensez que ça peut s'apaiser, que on entendra plus ce qu'on entend aujourd'hui de la CGT, c'est-à-dire c'est un militant valeureux, il est écarté pour des raisons politiques, on ne veut pas savoir ce qu'il a fait d'autre, enfin, ça ne nous regarde pas.
Moi, je pense qu'on ne peut que progresser et que là, les différentes étapes qu'on a franchies montrent qu'on progresse. Puisque la cellule de veille, elle a été mise en place très largement, pas de problème. Le cadre commun, on a eu un débat très approfondi, long, qu'on n'a pas du tout cherché à escamoter d'ailleurs. Enfin, on a laissé aux organisations le temps d'analyser, de faire des amendements, etc. Et le cadre commun, il a été adopté une très large majorité, c'est-à-dire plus de 2/3 des unions départementales, des fédérations l'ont voté. Et puis maintenant, il est voté par tout le monde, donc il doit s'appliquer à tout le monde. Et donc, comment est-ce qu'on a fait pour progresser? C'est en déployant massivement de la formation. Et c'est ça qu'il faut qu'on continue à faire pour lutter contre l'invisibilisation des violences, la minoration permanente des violences, le fait que la parole des victimes elle soit tout le temps mise en doute et le fait qu'on puisse pondérer en disant ok, il a peut-être fait ça, mais en attendant c'est un bon militant. Et donc nous le martelons, on ne peut pas être un bon militant quand on est un agresseur sexuel en même temps.
Juste une toute petite question sur Benjamin Mar. Si on a bien suivi les débats en mars, vous n'avez pas participé au vote qui l'a exclu des instances confédérales? Est-ce que vous n'étiez pas là?
Si, j'étais là. Je vois qu'on ne peut rien vous cacher. Alors non, il y a eu 2 votes différents. Il y a eu un vote pour l'exclure des instances confédérales et là j'ai voté pour. D'ailleurs parce que j'avais voté surtout contre sa réintégration. J'étais opposée à ce qu'il soit réintégré en septembre à la CE confédérale. Et il y a eu un vote avant sur la mise en place de la commission ad hoc chargée de faire le contradictoire, c'est-à-dire d'entendre la cellule de veille qui avait recueilli la parole de la victime et de l'entendre lui. Et là, sur la mise en place de cette commission, le cadre commun n'était pas respecté de mon point de vue. Et il me semblait que c'était très important d'être exemplaire, étant donné que c'était la première application du cadre commun et que ça ferait derrière un cas d'école. Et donc, je pensais très ennuyeux qu'on s'y prenne à la hussarde 2 semaines avant le congrès, qu'on prenne pas le temps de bien faire les choses, parce que derrière, forcément, la forme et le fond, ça va aussi ensemble et ça décrédibilise le reste de la procédure.
Merci beaucoup à toi, Dan. Merci beaucoup, Sophie Binet, d'être passée par le plateau de Mediapart. On se retrouve très vite sur Mediapart. À bientôt.
Merci beaucoup.